Vous écoutez, on lit pour vous.
Cul-de-sac éternel pour les vêtements usés? Un texte de Valérie Lessard, paru le 31 mai 2024 dans la presse. Chiffon, lingette, bourde coussin. N'existe-t-il pas d'autre avenue plus prometteuse pour nos vêtements abîmés qui prennent le chemin de l'enfouissement? Je me demande quoi faire avec des vêtements défraîchis qu'il serait gênant d'envoyer à la friperie parce qu'ils ont des trous ou sont carrément déchirés, demande une lectrice Emma Boileau. Doit-on les mettre à la poubelle ou peut-on les récupérer quelque part? Cette question, Marianne Coquelicot-Mercier, conseillère en économie circulaire dans l'industrie textile, l'entend abondamment. Je fais tout pour ne pas y répondre directement parce que les solutions sont extrêmement limitées, dit-elle. Il n'y a pas présentement de solution systémique à l'enjeu des volumes excessifs de vêtements post-consommation qui sont en mauvais état et qui ne peuvent pas être réutilisés ou reportés. Recyc Québec confirme que les débouchés du recyclage textile au Québec sont actuellement très restreints. Pourtant, les besoins sont énormes. Les textiles représentent environ 6 % des matières éliminées au Québec, selon les données 2019-2020 de caractérisation de Recyc Québec. En 2011, ils comptaient pour 3,1 % du total éliminé. De nouvelles données doivent être dévoilées à l'automne. Le recyclage de textiles en fin de vie implique des défis technologiques et financiers de taille, notamment la séparation et le tri des textiles par catégorie de fibres en vue du recyclage et les débouchés, souligne Moïse Alex Docteur, porte-parole de Recyc Québec. Le mélange de fibres à l'intérieur d'un même vêtement est l'un des principaux défis du recyclage mécanique du textile, de même que le retrait des points durs comme les fermetures éclairs, les boutons et les rivets. C'est pourquoi le recyclage textile effectué au Québec se résume principalement aux tissus post-industriels, comme les fins de lot, qui peuvent être transformés en bourrure ou en tapis. Des projets en branle. L'avenir n'est pas sombre pour autant. Marianne Coquelicot-Mercier constate un intérêt marqué pour cette question, tant dans les centres de recherche que dans les friperies, ici comme à l'étranger. À Paris, la jeune pousse Fab Brick transforme le textile en jolies briques décoratives, alors que plusieurs entreprises explorent les prometteuses possibilités du recyclage chimique. Marianne Coquelicot-Mercier collabore notamment avec Recyclocentre, une entreprise d'économie sociale de Sorel-Tracy, qui a démarré un projet de conditionnement des textiles afin de trouver des débouchés à la grande quantité de vêtements en mauvais état qu'elle reçoit et qui ne peuvent être revendus dans sa friperie. Défibrer les vêtements pour en faire des isolants de bâtiments ou du matériel d'artisanat est l'avenue explorée. En attendant, que faire de ce jeans tellement usé qu'on n'ose plus le porter? La poubelle plutôt que le centre de don, cela semble logique. Or, les points de vue divergent à ce sujet. Sur son site Internet, Renaissance demande de ne pas lui apporter de vêtements endommagés. L'application Ça va où de Recyc Québec indique également que les vêtements en mauvais état doivent aller à la poubelle. Alexandra Gagné, directrice adjointe de Recyclocentre, n'est pas de cet avis. Il faut maintenir le discours que les friperies et les ressourceries peuvent accepter tous les dons et que nous sommes habilités à les trier adéquatement. Marteler le contraire, poursuit-elle, ferait en sorte que trop de vêtements se retrouveraient aux ordures et qu'il serait probablement très difficile de changer cette habitude lorsqu'une entreprise québécoise sera prête à recueillir ses textiles en fin de vie. C'est aussi ce que dit Stéphane Lamarche, directeur des magasins Le Chaînon. On détermine nous-mêmes dans le tri ce qu'on peut revendre et réparer. En plus de répondre à des demandes provenant de designers ou d'artistes, l'organisme compte inaugurer d'ici la fin de l'année un centre de valorisation où des couturières bénévoles pourront réparer des vêtements légèrement abîmés et où des pièces tachées seront nettoyées. On a déjà commencé à garder les vêtements qui sont réparables, continue Stéphane Lamarche, ceux dont la fermeture éclair est brisée, ceux qui ont des petits trous à repriser ou un bouton manquant. Même si le projet n'est pas encore officiellement lancé, une couturière s'est déjà mise au travail et les vêtements réparés se retrouvent sur les rayons des magasins du Chaînon. Renaissance a aussi lancé un projet similaire. Au Chaînon, ce qui ne peut être réparé est vendu au poids à un revendeur qui est en mesure de trouver des débouchés, bien que, déplore Stéphane Lamarche, il est difficile de s'assurer que certains vêtements n'échoueront pas dans un dépotoir en Afrique. Il en va d'ailleurs de même pour les vêtements déposés dans les boîtes de collecte installées dans les boutiques des grandes enseignes comme H&M, Zara et Uniqlo. Même si toutes se targuent d'être en mesure de donner une seconde vie aux vêtements reçus, que ce soit par la réutilisation ou le recyclage, une enquête de la fondation Changing Markets a montré que certains vêtements de ces marques ont été détruits, perdus ou envoyés en Afrique. Les vêtements qui peuvent être portés à nouveau sont vendus comme des vêtements d'occasion, tandis que les vieux vêtements et textiles qui ne peuvent être revendus sont réutilisés ou recyclés en nouveaux produits et fibres, a assuré par courriel un porte-parole de H&M. Mais avant de penser à recycler, il vaut mieux réduire. Et si ce léger accroc dans votre chemisier pouvait être reprisé? Autre sujet. La parole au lecteur. Trois dans une. Geneviève Côté. Étant donné la difficulté à faire réutiliser mes contenants à la pharmacie, j'ai demandé à ce qu'on fasse mes renouvellements pour 3 mois. C'est une option peu connue et qui a plus d'un avantage. On réduit le nombre de fioles utilisées, mais aussi les frais et le nombre de visites pour récupérer nos médicaments. Évidemment, cette option est possible pour des médicaments pris sur une longue période et dont le dosage est stable. Feu vert. Recyclable vraiment? 8 grandes enseignes ayant vendu des sacs identifiés comme étant recyclables, alors qu'ils ne sont pas acceptés dans les centres de tri au Québec, devront se défendre devant les tribunaux. Le 22 mai 2024, la Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective de 10 millions contre Dollarama, la SAC, Rona et Métro notamment, qui sont accusés d'éco-blanchiment et de fausses déclarations. Le dossier permettra de baliser l'utilisation du terme « recyclable » qui n'est pas actuellement réglementé au Québec. Lisez les détails de l'action collective. Feu rouge. Encore des produits toxiques dans des vêtements Shine. Une enquête de CBC l'avait dénoncé en 2021, de même qu'un rapport de Greenpeace l'année suivante. Mais l'histoire se répète. Des produits toxiques ont été signalés sur des vêtements et accessoires vendus par le géant chinois Shine, dont certains pour enfants. Selon l'AFP, des inspections menées par les autorités de la ville de Séoul, en Corée du Sud, ont montré que certains produits présentaient de hauts niveaux de phtalates, dont des chaussures qui contenaient 428 fois les limites autorisées. C'était « Cul-de-sac éternel pour les vêtements usés », un texte de Valérie Lessard, paru le 31 mai 2024 dans « La Presse ».
Arctique, la Russie en avance, le Canada à la traîne. Une chronique de Robert Falcon-Ouellet, parue le 17 décembre 2024 dans Espaces autochtones. En tant que professeur d'université, je donne au gouvernement une note B pour sa nouvelle stratégie arctique. Bien que cette stratégie soit globale, elle nécessite un recalibrage pour répondre véritablement aux intérêts nationaux à long terme du Canada et des Inuits qui habitent cette région depuis des millénaires. L'Arctique n'est pas qu'un jeu de balles géopolitique. C'est une patrie dynamique, riche en culture, en savoir et en potentiel économique inexploité. Le Canada doit placer les Inuits au cœur de sa stratégie pour l'Arctique en reconnaissant leur rôle en tant que gardien de cette région fragile mais dynamique. En même temps, il est impératif d'aligner les priorités de sécurité nationale avec une croissance économique durable, visant à augmenter la contribution de l'Arctique au PIB du Canada à 5 % tout en préservant son environnement unique et le mode de vie autochtone. Créons de la richesse au lieu de simplement redistribuer celle qui existe déjà. Pour que le Canada réalise le plein potentiel de l'Arctique, les investissements dans les infrastructures doivent être prioritaires. Malgré son immensité et son importance stratégique, l'Arctique canadien ne représente que 0,5 % de l'économie nationale, un contraste frappant avec l'Arctique russe qui représente 20 %. La stratégie pour l'Arctique reconnaît que la Russie, les États-Unis et même la Chine sont de sérieux concurrents pour la souveraineté dans cette région. Pour garantir que notre souveraineté ne soit pas remise en question par d'autres nations, nous devons intégrer l'Arctique à notre économie en investissant dans les transports, la connectivité numérique, le logement et l'énergie. Tout est une question de personnes et d'emplois. Construire des routes praticables toute l'année, des voies ferrées et des ports améliorera les chaînes d'approvisionnement, réduira les coûts de vie des communautés arctiques et attirera des investissements. Par exemple, des installations portuaires dirigées par des Inuits, dotées de solides capacités de recherche et de sauvetage, SAR, peuvent soutenir à la fois les économies locales et les revendications de souveraineté du Canada. En responsabilisant les entreprises et communautés inuites pour diriger ces initiatives, nous créons un modèle durable qui aligne la croissance économique sur la préservation culturelle. De plus, il est nécessaire d'établir un système de passage complet pour les navires transitant par le passage du Nord-Ouest. Inspiré de la voie maritime du Saint-Laurent, ce système exigerait la formation et le déploiement de pilotes maritimes inuits, des professionnels ayant une connaissance inégalée des eaux arctiques, pour guider les navires en toute sécurité. Cela réduirait les risques environnementaux tout en veillant à ce que les communautés locales bénéficient directement de l'augmentation des activités maritimes. Près des entrées du passage du Nord-Ouest, des équipes d'inspection de la marine et de la garde côtière canadienne devraient vérifier que tous les navires respectent des normes strictes de sécurité et d'environnement. Cette mesure proactive empêcherait des catastrophes telles que des marées noires ou des naufrages qui pourraient dévaster les écosystèmes marins et les moyens de subsistance des Inuits. La sécurité dans l'Arctique est cruciale à mesure que l'intérêt mondial pour la région grandit. Les Forces armées canadiennes, FAC, jouent un rôle clé dans l'affirmation de notre souveraineté et la réponse aux urgences. Cependant, le groupe d'intervention de l'Arctique, qui fonctionne actuellement au sein de la 38e brigade des FAC, a besoin d'un mandat renforcé. Ce groupe devrait être élargi pour devenir une unité à temps plein au sein des FAC, avec le soutien des forces de réserve. Cela permettrait d'assurer une capacité constante tout au long de l'année pour s'entraîner, répondre aux crises et opérer dans l'environnement exigeant de l'Arctique. Le Royal Winnipeg Rifles, avec son histoire riche et son expertise, est idéalement placé pour mener cette transformation. Cette capacité élargie permettrait également des exercices conjoints plus fréquents avec les Rangers Inuits et les forces alliées, renforçant ainsi l'interopérabilité et démontrant l'engagement du Canada envers la défense de l'Arctique. De plus, investir dans des infrastructures qui soutiennent les opérations militaires, telles que des bases permanentes et des pistes d'atterrissage, aurait des avantages doubles pour la défense et les communautés locales. Le rôle des Inuits. Au cœur de toute stratégie pour l'Arctique, doit se trouver la reconnaissance de l'autodétermination des Inuits et de leurs connaissances traditionnelles. Les Inuits prospèrent dans cet environnement depuis des milliers d'années, et leurs perspectives sont inestimables pour relever les défis actuels. Les Inuits ne devraient pas se limiter à être consultés, ils doivent diriger. Cela inclut une participation active dans les processus de prise de décision liés à la réglementation de la navigation, à la protection de l'environnement et au développement des ressources. Les gardiens Inuits, qui surveillent et protègent leurs terres et eaux, offrent un modèle de gestion que le Canada pourrait amplifier à l'échelle nationale. Avec des investissements accrus dans l'éducation et la formation professionnelle pour les Inuits, nous pouvons nous assurer que les communautés locales sont prêtes à saisir les opportunités émergentes dans des domaines comme les énergies renouvelables, le transport maritime et le développement des infrastructures, y compris la création d'une nouvelle université inuite. Notre échec prolongé à protéger nos intérêts nationaux dans l'Arctique ne signifie pas que nous devons persister dans cette voie. Fixer un objectif de 5 % de l'économie canadienne provenant de l'Arctique est ambitieux, mais réalisable. Cela exige une approche équilibrée qui priorise la durabilité, la sécurité et les opportunités économiques. En investissant dans les infrastructures, en élargissant les capacités de sécurité dans l'Arctique et en plaçant le leadership inuit au centre, nous pouvons libérer le potentiel de la région tout en sauvegardant son avenir canadien. L'Arctique n'est pas un rêve lointain, ni un trésor à piller sans fin. C'est un foyer, une terre de lien, une part du Canada, notre bien. C'était Arctique, la Russie en avance, le Canada à la traîne. Une chronique de Robert Falcon-Ouellet, parue le 17 décembre 2024 dans Espaces autochtones.
Un disque pour remplacer tampons et serviettes, un texte de Nathaël Morissette, paru le 4 mars 2024, dans la presse. L'innovation. Un disque menstruel réutilisable de 62 mm de diamètre, se différenciant de la coupe, comme celle de marque Diva Cop, par sa forme plus plate et sa texture plus souple, et qui, de surcroît, offre une solution écologique aux tampons et serviettes jetables. Voilà l'objectif que s'était fixé Marielle Larue, fondatrice de l'entreprise Fornix, dont le produit, homologué par Santé Canada, est offert en ligne partout au pays depuis quelques mois. Un projet personnel qui s'est transformé en mission sociale, explique la principale intéressée. L'histoire. Alors qu'elle avait décidé d'utiliser des couches lavables à la naissance de sa première fille, Madame Larue a eu au même moment l'impression d'être en contradiction avec ses valeurs et éprouvait un malaise à la vue de ses propres serviettes hygiéniques qui s'empilaient dans la poubelle. Elle s'est donc lancée à la recherche d'une solution écologique en essayant une quarantaine de produits de rechange moins polluants pour finalement réaliser qu'aucun d'entre eux ne lui convenait. Le design n'était pas confortable et elle a vite compris qu'elle n'était pas la seule à ne pas avoir déniché la perle rare. La première fois que j'ai essayé un disque menstruel, il n'y avait alors qu'un seul modèle au Canada. Il était trop grand et trop souple, raconte-t-elle. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de passer à l'action. Je me suis dit, si ce n'est pas moi qui le fais, personne ne va le faire à ma place. J'ai décidé de m'entourer d'une équipe pour concevoir un produit confortable et efficace. Et la nouvelle entrepreneure a appris une multitude de choses qu'elle ignorait sur l'anatomie pelvienne, reconnaît-elle en riant. Comment fonctionne-t-il? Le disque menstruel se différencie d'une coupe menstruelle par l'endroit où il se porte. Il s'installe plus haut que la coupe, dans ce qu'on appelle le fornix vaginal, d'où le nom de l'entreprise. Il peut être utilisé pendant 12 heures et donne vraiment l'impression de ne rien porter, assure Madame Larue. Il suffit ensuite de le nettoyer avec de l'eau. Le design du disque de Fornix, fabriqué avec du silicone médical, est conçu ici. Le produit est ensuite fabriqué dans une usine en Ontario. Son prix, 54 $. Beaucoup de disques menstruels se vendent illégalement au Canada, prévient-elle. Ce n'est pas normal que ça coûte 3 $. C'est vraiment important de choisir un matériel auquel on peut faire confiance. Les muqueuses vaginales sont plus perméables que les muqueuses buccales. Donc, c'est important de choisir quelque chose de qualité. L'objectif, selon la fondatrice de Fornix, le disque réutilisable a une durée de vie de 10 ans. Résultat, son produit permet à chaque femme d'éviter de jeter 2400 produits à la poubelle, calcule-t-elle. Offert en ligne, sur le site de l'entreprise et dans quelques boutiques spécialisées, le disque n'est pas en vente pour le moment dans les grandes pharmacies. Mais je pense que ça serait pertinent pour la clientèle d'avoir l'option quand vient le temps de choisir un produit menstruel, soutient Marielle Larue, qui n'écarte pas l'idée de faire son entrée chez ses détaillants. Dans les mois à venir, elle veut être à l'écoute des besoins de la clientèle. J'ai conçu le produit idéal pour moi et pour combler un manque dans l'offre sur le marché, ajoute celle qui a étudié en administration pour ensuite travailler en développement des affaires. Je me sens investie d'une mission sociale, a-t-elle martelé à plusieurs reprises. Il faut que je fasse connaître ça. J'ai utilisé des tampons pendant 20 ans. J'ai jugé les disques. Avant de connaître, on juge. C'était un disque pour remplacer tampons et serviettes, un texte de Nathaël Morissette, paru le 4 mars 2024 dans la presse.
Soigner, écrire, transformer la mort en mots. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir. Comment faire quand on fait face tous les jours à la maladie et à la souffrance pour ne pas sombrer soi-même ou se désensibiliser complètement? Pour la psychiatre et poète Wanessa Yunsi, l'écriture est une façon de trouver cet équilibre. La littérature, c'est cet espace où je peux être en contact avec mes propres zones de fragilité pour aussi accueillir celles des autres, indique en entrevue l'autrice qui a 5 recueils de poésie et 2 essais littéraires à son actif. Son dernier essai poétique, « Soigner, écrire », est paru en novembre 2024 dans le cadre du prix de la revue « Études françaises » qui souligne une contribution exceptionnelle à la réflexion sur la littérature et l'écriture de langue française. Parmi ses prédécesseurs, on retrouve des noms comme Marie-Claire Blais et Hélène Dorion. Son livre est publié environ 8 ans après son précédent essai, « Soigner, aimer », qui a été finaliste du prix littéraire du gouverneur général du Canada. À l'époque, elle se voyait comme médecin le jour et poète la nuit. Aujourd'hui, elle constate que ces deux identités s'entremêlent et se nourrissent. Il lui serait toujours impossible d'être psychiatre sans être poète. Ce sont deux métiers qui ont comme fondement la question de la vulnérabilité et la question du langage. En psychiatrie, on n'a pas le choix d'écouter le patient parce qu'on ne peut pas simplement faire une imagerie d'un cerveau et voir si la personne souffre de schizophrénie ou de maladie bipolaire. On doit donc tenir compte du récit du patient, du récit des proches, du récit social et culturel, raconte la médecin qui a écrit « Dans les interstices, entre deux patients et entre deux boires à son fils ». Ce sont les liens entre ces rôles que Wanessa Yunsi explore dans son dernier opus, inspiré de son quotidien de médecin sans téléphone intelligent ni voiture. La mort y est un thème central. Les suicides et les maladies mortelles font inévitablement partie de sa vie de médecin psychiatre, tout comme d'autres formes de mort, les deuils qui nous habitent, les pertes non digérées. Dans ce contexte, la poète transforme la mort en mots. Je trouve dans cette idée peut-être pas la paix, mais une accalmie, écrit-elle. Les morts ont besoin de mots pour rester vivants. Sous sa plume sensible et imagée, des patients qui entendent des voix, qui ont des hallucinations visuelles, qui sont plongés dans leurs idées noires ou qui perdent leurs mots en raison de troubles cognitifs deviennent immortels, même s'ils demeurent anonymes. Elle estime que ces deux métiers posent la question de comment on marche vers la mort. La poésie regarde la mort en face, relève-t-elle dans son livre. De soignante à patiente, l'autrice explore ses propres failles, hypocondrie, phobie, désir de perfection, entre autres, et celle de ses collègues. Ils troquent ainsi leur position de soignant pour celle de patient. Ces rôles sont interchangeables. Ce qui fait que je suis sur ma chaise, c'est une série de hasards et de gênes. Je pourrais toujours être de l'autre côté, juge-t-elle. Dans ses récits-réflexions, truffés de citations littéraires et universitaires, Wanessa Yunsi se réfère entre autres à la médecin et professeure Rita Charon, mère de la médecine narrative, pour qui écouter un patient et lire un récit relève de compétences semblables. C'est un courant que j'ai découvert plus récemment et qui m'a permis de mettre des mots sur des intuitions ou des façons de faire que j'avais, rapporte-t-elle au Devoir. Elle aborde aussi son malaise avec un certain vocabulaire utilisé dans sa pratique, comme celui de se référer à des patients comme étant des cas. Quand on s'arrête au langage, on voit bien que ces mots-là réduisent la subjectivité d'une personne, explique-t-elle. Peut-être que la littérature, pour moi, est une façon d'utiliser les mots autrement et de voir leur charge symbolique que je ne vois pas au quotidien à l'hôpital. Confidentialité oblige, les histoires concernant des patients sont largement modifiées ou même inventées. Quand je parle de moi ou de collègues, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'on parle toujours de soi. Même quand je décris quelque chose d'externe, il y a toujours une partie de mon regard ou de ma vision, souligne-t-elle. Finalement, soigner, écrire, parle de notre humanité commune, qu'on peut admirer si on tend l'oreille, vers soi-même et vers les autres. C'était « Soigner, écrire, transformer la mort en mots », un texte de Roxane Liouzon, paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir.